Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a affirmé que l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis ne résulte d'aucune négociation et qu'aucune négociation n'aura lieu à l'avenir. En Syrie, une voiture piégée a explosé ce samedi 6 juin près des silos de Tal Alf, au sud-ouest de la ville de Ras Al Ain, dans la banlieue de Hasakeh. Et le secrétaire à la défense américain Mark Esper a ordonné que les troupes en service actif déplacées dans la région de Washington DC retournent dans leur base d'attache de Fort Drum à New York. C'était les titres. En voici le journal. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a affirmé que l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis ne résulte d'aucune négociation et qu'aucune négociation n'aura lieu à l'avenir. À la suite de l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis, Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, a écrit sur sa page Twitter ce vendredi 5 juin: le racisme aux États-Unis est si grave que le clan Trump n'a d'autre choix que de produire de faux succès en faveur de leur chef. L'échange de prisonniers n'est pas le résultat de négociations et aucune négociation n'aura lieu à l'avenir, a indiqué le haut responsable iranien. Auparavant, Trump avait promis, après son retrait de l'accord sur le nucléaire iranien et la mise en place de sa politique de pression maximale contre l'Iran, qu'il les contraindrait l'Iran à revenir à la table des négociations afin d'arriver à ce qu'il a nommé un meilleur accord. Dans une nouvelle déclaration interventionniste, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que l'incarcération de l'Iranienne Fariba Adelkha avait un impact négatif sur les relations bilatérales entre la France et l'Iran et réduisait substantiellement la confiance entre les deux pays. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, a dénoncé vendredi les propos hostiles du ministre français des Affaires étrangères au sujet de la prisonnière iranienne Fariba Adelkha. Moussavi a souligné qu'Adelkha est impliquée dans un processus judiciaire indépendant et équitable, appelant les responsables français à mettre fin à leurs remarques dérangeantes dans les affaires intérieures de l'Iran. Il a souligné que le pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran jouit de la pleine indépendance prévue par la Constitution. La France est-elle en droit de menacer l'Iran alors qu'elle soutient depuis plus de 30 ans l'organisation terroriste des Mojahedin Khalr, appelée communément Mena Farine, et ne cesse de s'ingérer dans les affaires intérieures iraniennes? En Syrie, une voiture piégée a explosé ce samedi 6 juin près de silo de Tal Alf, au sud-ouest de la ville de Ras Al Ain, dans la banlieue de Hasakeh, a annoncé l'agence de presse officielle syrienne Sana. Des informations indiquent que l'explosion a fait nombre de blessés, a révélé le correspondant de Sana. Rappelons également que le gouvernement turc a reconnu ce samedi que l'un de ses soldats avait été tué et deux autres avait été blessé alors qu'il soutenait ses forces des réseaux terroristes dans la banlieue d'Idlib. A noter que les réseaux terroristes déployés à Idlib reçoivent un soutien direct de la Turquie avec divers moyens et armes pour mener leurs attaques contre des villages et des villes sécurisées de la Syrie. Des sources civiles ont précisé aux correspondants de Sana qu'un combat par des armes légères et moyennes avait lieu entre les mercenaires de l'occupation turque appartenant à soi-disant Ferhat Hamazat et à soi-disant Ahrar al-Sharia dans la ville de Ras Al Ain à la suite des accusations de trahison et de faire entrer des voitures piégées dans la ville, ce qui a fait nombre de blessés parmi eux. Les sources ont souligné que les combats qui s'étaient concentrés près du rond-point de Hasakeh dans la ville de Ras Al Ain avaient semé la panique parmi les habitants et causé des incendies dans plusieurs voitures des groupes terroristes. Ouvrons la page de l'actualité africaine. L'Éthiopie s'est exprimée ce 5 juin sur les accrochages qui ont eu lieu la semaine passée à la frontière avec le Soudan entre des milices éthiopiennes non gouvernementales et l'armée soudanaise, évacuant la probabilité d'un conflit armé selon Al Ain. L'armée soudanaise avait accusé son homologue éthiopienne d'avoir soutenu ses milices. Dans une déclaration vendredi 5 juin au site d'information arabe Fanal Ain, le porte-parole du gouvernement éthiopien Gosso Talaon a écarté la possibilité d'un conflit total avec le Soudan suite aux accrochages qui ont eu lieu le 28 mai à la frontière entre les deux pays, entre des milices armées éthiopiennes et l'armée régulière soudanaise. Alors que l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan s'apprêtent à s'asseoir autour de la table des négociations sur la question épineuse et source de tension des eaux du Nil, Ngosso Talaon a affirmé que son pays n'entrera jamais en guerre contre le Soudan, quels que soient les problèmes, et privilégiera la voie du dialogue. Il a par ailleurs annoncé que des négociations sont toujours en cours entre les deux pays pour régler le problème des frontières. L'Organisation des Nations Unies vient d'annoncer la création d'une nouvelle mission au Soudan pour aider le pays dans sa transition démocratique. Un an après la chute d'Omar el-Bashir, où en sont les négociations entre Khartoum et les différents groupes armés dans le pays, notamment ceux du Darfour. Un cessez-le-feu a été signé en octobre dernier. Depuis, des négociations ont été ouvertes à Djouba. Cela fait 7 mois que les différents groupes armés du Darfour, mais également du sud Kordofan et du Nil Bleu, négocient avec Khartoum. Des négociations qui avancent lentement, tant la méfiance est grande entre ces groupes qui se battent depuis près de 20 ans. L'épidémie de coronavirus n'a pas non plus aidé, certains groupes armés ayant refusé de prendre part à des discussions par vidéoconférence. Au centre des négociations, le partage du pouvoir. Les groupes armés veulent siéger au Conseil souverain, au Conseil des ministres ainsi que dans la future Assemblée législative du pays. En tout cas, le retard dans ces négociations a des conséquences sur la transition dans le pays. Il retarde d'autant la formation d'une assemblée législative et la nomination de gouverneurs civils, deux étapes très attendues de ce processus politique. Sur le terrain, des accrochages sporadiques continuent malgré un cessez-le-feu signé en octobre dernier. Et pour fermer le journal, le secrétaire à la défense américain Mark Esper a ordonné que les troupes en service actif déplacées dans la région de Washington DC retournent dans leur base d'attache de Fort Drum à New York, a déclaré le vendredi 5 juin le secrétaire à l'armée Ryan McCarthy. Le président américain Donald Trump se heurte à l'opposition des milieux militaires. Cela intervient alors que diverses villes américaines sont toujours le théâtre des protestations contre la violence policière et le racisme pratiqué à l'encontre des gens de couleur. Après 11 jours de rassemblement dans plusieurs villes américaines en hommage à George Floyd et contre les inégalités raciales, la répression policière fait l'objet de sévères critiques et de polémiques. Plusieurs vidéos montrent des interventions violentes face à des manifestants pacifiques. La dernière en date, diffusée jeudi soir, a été filmée dans la ville de Buffalo, à l'extrême nord de l'État de New York. On y voit un homme âgé de 75 ans, seul face à des dizaines de policiers. L'un d'eux le pousse, il tombe en arrière, sa tête heurte le sol, du sang s'écoule de son oreille. Alors qu'il semble inconscient, aucun des policiers ne lui porte secours. Depuis le début de 2015, la police de la ville de Minneapolis a utilisé à 237 fois cette technique de pression sur la nuque définie comme étant un dispositif de blocage où un agent utilise son bras ou sa jambe pour comprimer le cou d'une personne, rapporte dans une enquête NBC News. Au cours de cette période, 44 personnes appréhendées de cette façon ont perdu connaissance, a-t-on appris de la même source. L'enquête montre également que les 3/5 des personnes soumises à ce type de prise étaient noires. Depuis le 25 mai, où l'Afro-Américain George Floyd a été étouffé sous le genou d'un policier blanc, les États-Unis s'embrasent. Les contestations contre le président américain se multiplient alors qu'il cherche à maîtriser la situation, soit par la répression, soit par la violence, afin de s'assurer qu'il ne quittera pas le pouvoir. Les rivaux de Trump ont exploité les événements actuels comme preuve de son incompétence à briguer un nouveau mandat. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. États-Unis, de quoi a peur le Pentagone? C'est le titre du commentaire politique. Ce n'est ni l'Irak, ni le Yémen, encore moins la Syrie, mais le Pentagone qui a eu peur d'enlisement. Après 72 heures de cacophonie et de confusion, de limogeage du secrétaire à la défense sur fond de la fronde des généraux de l'armée US, celle-ci a regagné ses casernes. Le secrétaire à la défense, Mark Esper, a donc ordonné que les troupes en service actif et déplacées dans la région de Washington DC retournent dans leur base d'attache de Fort Drum à New York. Des troupes de la 82e division aéroportée, de la 10e division de montagne et de la 1ère division d'infanterie qui ont perdu des guerres au Vietnam, en Afghanistan, en Irak et en Somalie étaient déployées sur la base aérienne d'Andros, prêtes à se lancer dans la chasse aux insoumis et à faire couler du sang comme ils l'ont fait et font toujours et depuis des années au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump est donc publiquement désavoué par l'armée, bien qu'il n'ait comme toujours pas manqué d'air et soit allé jusqu'à prétendre que tout est sous contrôle. Mais si ces menaces de recourir à l'insurrection acte et de faire appel à l'US Army pour régler rapidement le problème des manifestations, si les gouverneurs ne le font pas, ont placé le président américain en porte à faux avec une nouvelle institution, d'habitude beaucoup plus silencieuse, cela n'irait pas sans avoir des conséquences directes. Un commandant chef désavoué par ses subalternes, c'en est un, pas vraiment. Au fait, le refus de l'US Army de s'engager dans la rue contre la population US intervient alors que diverses villes américaines sont toujours le théâtre des protestations et que 12 jours après le début des manifs, il n'existe aucun signe d'essoufflement. Et c'est justement la raison pour laquelle les généraux américains se sont refusés à suivre leur commandant en chef et refuseront encore à le suivre dans les prochains jours. Avec plus de 100 000 morts en l'espace de quelques semaines et plus de 40 millions de chômeurs générés dans le sillage de la COVID-19, le combat du régime américain contre la rue est perdu d'avance. Reste que dans un pays comme l'Amérique, constamment en guerre, la désobéissance de l'armée US face à son commandant-chef ne peut pas être de bon augure et divers fronts de combat US en Asie de l'Ouest en ont apporté les signes. Face à l'Iran, les États-Unis ont été amenés à libérer un ingénieur qui détenait depuis des mois au point de susciter des commentaires de ses opposants. Trump disait ne pas lâcher du lest face à Téhéran, mais il l'a fait à plus d'une reprise. Il a libéré Tahiri n'a rien fait pour les pétroliers iraniens ayant fait interruption aux Caraïbes, a prorogé les dérogations à l'importation du gaz et de l'électricité iranienne en Irak, bref, a fourni beaucoup de dollars à l'Iran pour obtenir la libération d'un ex-marine. Et dire que l'Iran continue à défier les USA et à refuser le principe de tout dialogue et ce sur fond de tweets enflammés de Trump qui appellent Téhéran un « big deal ». En Irak, alors que le pays va entamer les pourparlers stratégiques avec les États-Unis, un sous-secrétaire sous Bush, Mark Kimmitt, vient de faire des révélations intéressantes. En Irak, aucun groupe politique n'est favorable au maintien de troupes US. Même les courants les plus pro-américains veulent que les troupes US réduisent leur rôle à la formation et au soutien logistique. On va droit vers un scénario identique à 2011. Quant à la Syrie, la réaction de Damas à l'insurrection américaine est fort intéressante. Le gouvernement syrien prévoit de soutenir par des moyens militaires les forces pro-démocratiques des États-Unis contre le régime autoritaire de Washington, comme l'a annoncé le président Bachar al-Assad dans un discours.